Festival de musique sacrée de Rocamadour, le magazine, Éric Dupri.
Bienvenue sur Radio Présence, bonjour à tous. Après Roberto Alagna pour la première interview de l'un des artistes invités au festival de Rocamadour 2024, je m'entretiens aujourd'hui avec le violoncelliste Victor-Julien Laferrière, fondateur et directeur artistique de l'orchestre Consuelo, qui a accompagné le célèbre ténor français lors de son récital hier soir dans la vallée de l'Alzou. L'orchestre Consuelo se produit de nouveau au même endroit ce soir à 20h30 dans un programme dédié aux 5e et 6e symphonies de Beethoven. Bonjour Victor-Julien Laferrière et tout d'abord merci d'avoir accepté cet entretien avant ce concert, sachant que c'est un retour pour vous à Rocamadour. Vous avez déjà été programmé au festival en 2021 à la Basilique Saint-Sauveur où vous aviez joué en trio avec Renaud Capuçon et Gérard Cosset.
Bonjour, c'est tout à fait ça. J'avais eu le plaisir de découvrir déjà même ce lieu incroyable et mythique, tout le site de Rocamadour. Et en effet, j'avais découvert la magnifique acoustique de cette salle si particulière où on a le public tout autour. On profite d'une résonance très longue, en fait, et souvent on s'en méfie en tant que musicien. Mais je me souviens que celle-ci, on ne s'en méfiait pas du tout, car elle était particulièrement harmonieuse et particulièrement belle.
Oui, et d'ailleurs, Renaud Capuçon est un des musiciens qui salue la qualité de l'acoustique de la Basilique Saint-Sauveur. Et quand on sait à quel point il s'est produit un peu partout dans le monde entier, c'est un jugement sur lequel on peut s'appuyer, bien sûr. Alors vous êtes aujourd'hui l'un des violoncellistes français les plus renommés, les plus demandés. Je rappelle que vous avez gagné le premier prix du très prestigieux concours Reine-Elisabeth de Belgique en 2017. Mais finalement, vous êtes venu assez tôt à la direction en fondant l'orchestre Consuelo en 2021. Vous aviez un peu plus de 30 ans. Est-ce que c'était ancien chez vous ce désir d'aller vers la direction d'orchestre et cette volonté d'avoir votre propre ensemble ?
Oui, toutes les personnes qui me connaissent depuis très longtemps et depuis mon enfance n'ont pas été surpris que je me tourne vers la direction d'orchestre. Ils savaient que c'était une passion très ancienne chez moi. Donc dès que j'ai senti que j'avais la possibilité, pour des raisons personnelles, des raisons très personnelles, de moments dans sa vie, que je sentais que je pouvais me consacrer ou consacrer une partie de mon activité à cette discipline-là, je n'ai pas hésité et je me suis lancé dedans en fondant en effet l'orchestre Consuelo. Mais c'est vrai que j'avais déjà eu ce même désir d'une certaine manière à l'âge de 12 et 13 ans, puisque j'avais réuni nombre de condisciples du conservatoire pour venir chez moi les week-ends où je les dirigeais dans des symphonies de Mozart ou des symphonies pour cordes de Mendelssohn ou autres.
À quel moment vous avez commencé à prendre des cours de direction et avec qui ?
Alors j'ai participé à différentes masterclass, j'ai pris des cours particuliers pendant plusieurs années, de manière un petit peu décousue, parce que le violoncelle me prenait beaucoup beaucoup d'énergie, c'était la période aussi des concours internationaux, la période où on se crée tout le répertoire de violoncellistes. Donc c'est vrai que au moment où j'aurais pu peut-être faire une classe dans un conservatoire, je n'avais pas l'impression d'avoir la disponibilité d'esprit pour le faire, sans parler d'emploi du temps. Donc en fait, c'est plutôt, j'ai consacré vraiment une grande partie de mes journées, de mes nuits et de mon emploi du temps en général, de manière systématique, depuis maintenant 6 ans.
Alors l'orchestre Consuelo, le nom que vous lui avez donné n'est pas commun, en tout cas il me semble, pour un orchestre, d'autant plus que, sauf erreur de ma part, c'est lié au roman de George Sand qui porte ce titre, Consuelo.
C'est tout à fait ça. Alors, en effet, il n'est pas commun, mais en même temps, c'est le but de trouver un nom. c'est qu'il ne soit pas déjà utilisé. Mais en effet, on a choisi le roman de George Sand, déjà parce que c'est un roman que j'avais lu adolescent, et je me souvenais qu'il avait parlé beaucoup de musique, ce qui est assez rare, finalement, quand on parcourt la littérature romantique française. Il n'y a pas tant de romans comme ça qui sont centrés sur la musique, sur le monde de la musique. Et donc, ce roman de George Sand, merveilleux roman, Fleuve, fait apparaître des figures historiques comme Joseph Haydn ou alors Porpora, le grand maître italien. Et le personnage principal, Consuelo, est une cantatrice issue des faubourgs de Venise, si je ne m'abuse. Donc voilà, ça me semblait tout indiqué. C'était aussi pour des raisons pratiques, un nom que j'aimais, que je trouvais qu'il sonnait bien. C'est quelquefois pas beaucoup plus compliqué que ça. Mais en tout cas, aussi la figure de George Sand a été déterminante, puisqu'on sait toute l'influence qu'elle a pu avoir sur de grands musiciens de son temps, comme Chopin évidemment, mais aussi Liszt. Donc voilà, c'est un peu toutes ces raisons qui nous ont poussés vers ce nom.
C'est un nom qui me va d'autant plus droit au cœur que j'ai grandi à quelques kilomètres du domaine de George Sand à Nohant. Alors, on va parler maintenant des musiciens qui constituent cet orchestre Consuelo. D'où sont-ils issus ?
Il y a, je dirais, deux profils, généralement, deux profils dans l'orchestre. L'un, ce sont des chambristes qui font généralement plutôt du trio, du quatuor, du quintet avant aussi, etc. Et qui ne font pas vraiment de l'orchestre leur activité principale, mais qui, évidemment, sont fascinés par le répertoire et qui viennent pour faire de l'orchestre dans certaines conditions qui semblent leur convenir. Et puis, l'autre profil, ce sont des solistes d'orchestre issus des grands orchestres, Philharmonique de Radio France, Orchestre de Paris ou autre, capitale de Toulouse d'ailleurs aussi.
Et oui.
Et nous avons du coup aussi ce profil de gens qui sont habitués à de grosses institutions, de magnifiques orchestres, de magnifiques ensembles, et qui sont contents de faire d'aborder ce répertoire différemment. Déjà la taille de l'orchestre est différente, ensuite la personnalité évidemment de son fondateur, si je parle de moi à la troisième personne, c'est terrible. Et puis ensuite il y a voilà toute une somme de choix artistiques, éditoriaux qui sont faits, qui certainement offrent une autre perspective sur ce répertoire, et ça semble les intéresser puisque rien ne les oblige à venir, et je suis ravi, moi, de les accueillir.
L'effectif de l'orchestre, il varie de combien à combien ?
Nous nous stabilisons entre 40 et 50 musiciens environ. Parfois, nous dépassons légèrement, et puis nous avons évidemment la liberté et la souplesse de faire des programmes en bien plus petit effectif lorsque l'occasion se présente. Mais c'est vrai que cette année, la quasi-intégralité de nos projets nous pousse vers des formations quand même assez conséquentes, assez imposantes pour un orchestre de chambre indépendant, et donc autour de 40 à 50 personnes.
Il y a déjà eu un CD, un enregistrement, c'était les Sérénades de Brahms parues sous le label Mirare.
Absolument. C'est le premier disque que nous avons fait en 2022, en sortie de Covid. Deux merveilleuses œuvres, très différentes, même si elles sont rassemblées sous le nom de deux sérénades de Brahms. Mais en fait, ce sont deux œuvres qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, qui sont de la jeunesse de Brahms et qui me semblaient être un très bon choix pour nous, orchestre, certes de chambre, qui abordons le répertoire en orchestre un peu plus allégé, mais en même temps qui ne voulons pas nous cantonner à un répertoire, disons, Schubert, Mozart, etc. Donc de montrer qu'on aborde le répertoire romantique également. C'était, je pense, un bon programme pour nous.
Je propose qu'on écoute une première fois l'orchestre Concello et qu'on vous écoute aussi par la même occasion. Il s'agit d'un extrait du concerto pour violoncelle de Schumann. Vous en êtes le soliste, accompagné par les musiciens de votre ensemble.
Thank you.
extrait de l'unique concerto pour violoncelle de Robert Schumann, interprété par Victor-Julien Laferrière, accompagné par l'orchestre Consuelo. Nous allons parler maintenant du programme du concert de ce soir dans la vallée de l'Alzou, au pied de la cité illuminée, avec donc les 5e et 6e symphonies de Beethoven. Mais il faut qu'on précise au préalable que ce programme s'inscrit dans un projet beaucoup plus vaste, puisque vous allez enregistrer l'intégrale des 9 symphonies du grand compositeur allemand. Est-ce que c'est un projet que vous avez en tête dès la création de Consuelo?
Alors pas du tout. Il faut dire que n'importe quel orchestre et chef d'orchestre espère aborder les symphonies de Beethoven le plus tôt possible, ou en tout cas à un moment donné de sa vie et de sa carrière. Mais c'est vrai que c'est plutôt à l'instigation du Festival de la Chaise Dieu lui-même, qui est en fait dirigé par un ancien violoniste de l'orchestre, qui, lorsqu'il est devenu directeur du festival, a voulu certainement initier un projet d'envergure avec un orchestre qui ne l'avait pas fait 10 fois, et pour cause. Et donc il nous a proposé ce magnifique projet sur 4 ans de jouer, évidemment, et d'enregistrer les 9 symphonies de Beethoven. Nous en avons déjà enregistré 3 l'été dernier, qui sortent très bientôt pour le grand public chez le label B Records. Et cette année, nous allons encore en enregistrer 3. Nous aurons encore 2 années pour compléter le cycle avec les 3 dernières.
Comment il va se décliner dans le temps? Comment va-t-elle se décliner dans le temps, cette intégrale? Et en combien de volets? Il y aura 2 à 3 symphonies par volet, c'est ça?
C'est exactement ça. 3 symphonies par volet pour les 2 premiers volets, ensuite 2 pour le volet suivant, et la 9e occupera tout un volet à elle seule, d'une certaine manière.
Alors donc, le premier volet va sortir incessamment, là, c'est fin août, quelque chose comme ça, début septembre.
C'est exactement ça. En fait, nous sortons le volet précédent au moment où nous enregistrons, en situation de concert, le volet suivant. Donc cette année, nous nous attelons à la célèbre 5e symphonie, la non moins célèbre 6e dite pastorale, et puis la 8e qui, elle, est assez méconnue, mais qui est sublime également. De toute façon, je pense qu'on peut le dire pour chaque mouvement de chacune de ces 9 symphonies.
Alors c'est intéressant que vous en parliez, parce que concernant les symphonies de Beethoven, ce sont souvent celles portant un numéro impair qui sont jouées en concert, à l'exception de la 6e tout de même, que nous allons évoquer dans quelques instants avec vous. Est-ce que cette sorte de hiérarchie vous paraît légitime, ou trouvez-vous que des symphonies comme la 2e, la 4e ou la 8e sont trop peu jouées, voire sous-évaluées?
Oui, en fait, je pense que ça a à voir avec le type de caractère qu'elle véhicule. Certainement que certains caractères sont tout simplement plus publics, ont une portée, un projet d'ailleurs aussi plus universel. Et puis d'autres symphonies s'attellent à décrire des caractères dont c'est un peu moins le cas. Donc je pense pas du tout que ce soit évidemment la qualité des symphonies où il y ait une hiérarchie. Par contre, on peut très bien comprendre que, notamment par exemple, un orchestre de jeunes s'attelle plutôt à une symphonie facile d'accès, voire pour certaines occasions. Donc je pense que les différences tiennent plutôt de cela, puisque les symphonies numéro 2 et 4 sont tout aussi fascinantes que les autres, la 8e aussi. C'est simplement d'autres choses que le compositeur exprime, et c'est tout l'intérêt aussi d'avoir un cycle aussi complet et aussi fourni que celui-ci, c'est de voir toute l'étendue de l'expression, toute l'étendue du projet du compositeur.
Est-ce qu'il y en a une tout de même que personnellement vous préférez aux autres, ou à laquelle vous êtes plus attaché que les autres?
À l'instant présent, je vous citerai la pastorale, la numéro 6. Certainement me fascine tout particulièrement. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une sorte de suite, même si les 5 premières sont très différentes, il y a une forme d'unité, de suite, comme si parfois il reprenait un thème pour aller encore un peu plus loin, ou s'il développait un thème, une thématique, je veux dire, notamment de caractère. Alors qu'avec la 6e, j'ai l'impression que ça tranche totalement. Et là, c'est comme s'il ouvrait tout un pan du romantisme à venir, avec une manière très différente de préparer pendant très très longtemps un moment précis, par exemple de la symphonie, où il a envie là de déchaîner certains sentiments ou de certains éléments, en l'occurrence lorsqu'il s'agit de la pastorale. Et donc j'ai l'impression que la 6e, certainement, en ce moment, me paraît sortir d'une certaine manière de la progression des 5 premières.
Ce soir, dans la vallée de l'Alzou, vous allez donc donner la 5e, dite symphonie du destin, et la 6e que vous évoquiez à l'instant, connue aussi sous le nom de symphonie pastorale. Il y a une logique à les interpréter lors du même concert, au-delà du fait qu'elles se suivent dans la numérotation?
En fait, nous allons d'abord interpréter la numéro 6 pastorale avant d'interpréter la 5e. Tout simplement parce que c'est dans cet ordre-là que les 2 symphonies ont été créées lors d'un concert qu'on appelait Académie à l'époque à Vienne, au début du 19e siècle. Et donc elles ont été interprétées d'abord la 6e puis la 5e, créées toutes les 2 lors du même concert. Donc oui, il y a cette logique-là, historique déjà. Ensuite, au-delà du fait qu'elles ont été composées de manière concomitante, l'une est certainement le pendant de l'autre. D'ailleurs, ça marche dans les 2 sens. J'ai l'impression qu'il y a une, dans la construction de chacune de ces deux symphonies, il y a beaucoup de similitudes, alors même que les caractères n'ont absolument rien à voir, que ce sont deux univers qui tranchent absolument. On retrouve tout de même de grandes passerelles entre les deux, notamment dans l'architecture de ces deux symphonies. Donc oui, en effet, sur un concert, nous l'avons déjà fait en concert l'une et l'autre associées, et c'est quelque chose qui semble tomber sous le sens.
Alors la pastorale devrait prendre toute sa dimension dans le décor naturel incroyable de la vallée de l'Alzou, là au pied de la cité. Et à ce propos, jouer en plein air, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de le faire avec Consuelo? Et est-ce que c'est un exercice que vous redoutez avec, entre autres, les possibles aléas climatiques?
Alors oui, les aléas climatiques, nous essayons de ne pas y penser. Nous sommes un peu dans le déni. Et je crois que de toute façon, le festival a une solution de repli.
Alors je ne parlais pas de la pluie, hein, forcément, mais
du vent,
d'une
etc.
chaleur accablante ou au contraire d'une fraîcheur qui n'est pas prévue. Et ça peut arriver l'été, à la tombée de la nuit. Hein.
Nous essayons d'être prêts à toutes ces situations-là. Nous avons déjà joué en plein air, en effet, et pas plus tard qu'il y a quelques semaines. À chaque fois, c'est plein de surprises. Ça peut être de nature très différente. Ça peut venir évidemment de l'axe routier le plus proche ou d'une livraison imprévue, en passant évidemment, comme vous disiez, par des intempéries diverses. Mais souvent, il y a aussi une âme et un sentiment particulier qui se dégage de ces concerts, et a fortiori dans le cadre sublime de la vallée de Rocamadour. Donc nous avons très très hâte, en effet, de frotter notre travail à ces conditions-là.
Les CD de l'intégrale Beethoven n'étant pas encore parus, je ne peux pas vous faire écouter d'extrait des symphonies 5 et 6 interprétées par l'orchestre Consuelo. En revanche, je peux vous faire écouter un extrait du CD que vous avez consacré aux sérénades de Brahms. Voici le deuxième mouvement, Scherzo Vivace, de la sérénade numéro 2. Le très enlevé deuxième mouvement Scherzo Vivace de la sérénade numéro 2 de Johannes Brahms dans la version enregistrée par l'orchestre Consuelo, dirigé par Victor-Julien Laferrière, un CD paru sous le label Mirare. Pour conclure cet entretien, je voudrais qu'on parle d'une autre de vos casquettes, puisqu'en dehors de vos carrières de soliste et de directeur d'orchestre, vous êtes également directeur artistique d'une manifestation bien connue des mélomanes de notre région, le Festival du Comminges, et ce depuis 2022. La 49e édition est d'ailleurs toujours en cours. Il va y avoir un magnifique concert le 20 août, celui du Quatuor Ébène, à la basilique Saint-Just de Valcabrère, en contrebas de Saint-Bertrand de Comminges. Quelle est la marque, la patte de Victor Julien Laferrière dans la programmation de ce festival depuis que vous en avez repris la direction ?
Alors avant même d'apporter ma marque, comme vous dites, j'essaye d'être à la hauteur de la tradition de ce festival qui a une magnifique histoire, qui s'est constituée autour de l'orgue très impressionnant de la cathédrale Sainte-Marie à Saint-Bertrand-de-Comminges, qui jouit d'un parc d'acoustique magnifique, que ce soit la collégiale Saint-Gaudens, vous avez cité la basilique Saint-Just, et plein d'autres endroits encore. Donc c'est avant tout de faire vivre ce festival en respectant l'histoire et la tradition, c'est ce que nous essayons de faire. Et puis ensuite, évidemment, ce que j'ai essayé d'apporter dès cette année, c'est une forme de résidence d'artiste sur place. J'étais tellement frustré à la fois du point de vue du public et puis du point de vue des musiciens que à chaque fois un musicien vienne de très loin en général, puisque le Comminges n'est pas proche de grand chose d'une certaine manière, c'est ce qui en fait la beauté magnifique vraiment. Et donc j'ai essayé de faire en sorte que les artistes puissent rester plus longtemps. Voilà, je me suis attelé à ça. Donc là, en ces jours-ci même, Adèle Charvet, la mezzo-soprano maintenant bien connue alors qu'elle est si jeune, reste pour deux concerts. On l'a entendu avec le concert de La Loge dans des airs d'opéra français et italien. Et puis, elle reste en Comminges pour un programme qui n'a rien à voir, de mélodie française avec Florent Caroubi. Et puis, donc, j'ai ouvert le festival par trois programmes de musique de chambre qui, eux, supposaient que le groupe jouant ces trois programmes, donc sur 8 jours environ, reste 8 jours travaillant ces programmes sur place en Comminges. Et je me réjouissais beaucoup que le public apprenne à connaître plus profondément les artistes qui jouaient pour eux et que les musiciens eux-mêmes puissent découvrir un peu plus le Comminges que s'il n'y passait qu'un après-midi.
Il me semble aussi que votre marque, c'est la plus forte présence de l'orchestre dans la programmation.
Oui, en effet, nous avons essayé de remettre de l'orchestre en Comminges. Il n'y a pas vraiment de présence orchestrale et je suis souvent sensible à ces... On parle beaucoup des déserts médicaux, il y a aussi des déserts orchestraux en France. J'essaye d'y remédier à ma toute petite échelle, aussi dans Lyon, en Bourgogne et puis en Comminges. Cette année, cette présence orchestrale était incarnée par le concert de La Loge, qui est en effet un orchestre sur instrument d'époque, qui aborde particulièrement le répertoire de la période classique, c'est la période de Mozart ou Haydn.
Il me semble aussi que vous avez fait de ce festival un véritable projet culturel de territoire à travers divers lieux du Comminges, pas seulement à Saint-Bertrand.
Mais oui, il y a toujours cette volonté de faire profiter le plus de gens possible de la programmation qu'on propose. Évidemment, j'allais dire de la super programmation, ça paraît immodeste, mais c'est plutôt que si on programme quelque chose, on y croit dur comme fer. Donc on a envie que le plus de gens possible en profitent, évidemment. Et donc c'est pour ça que nous sommes allés dans plusieurs EHPAD cette année. Nous avons fait venir aussi des centres aérés. Je ne sais plus si on appelle ça toujours centres aérés, centres d'accueil loisirs, lors des générales des concerts particulièrement. Et puis nous essayons d'être le plus accueillant possible à tous les âges et à tous les profils.
Eh bien, merci beaucoup Victor Julien Laferrière de vous être prêté au jeu de l'interview. Je rappelle que vous allez diriger à la tête de l'orchestre Consuelo les 5e et 6e symphonies de Beethoven ce vendredi 16 août à 20h30 dans la vallée de l'Alzou, au pied de la cité illuminée. Magnifique lieu, magnifique décor pour un superbe programme pour lequel j'invite nos auditeurs à acheter et réserver leur place sur le site www.rocamadourfestival.com. Rendez-vous demain sur Radio Présence à 13h30 pour un entretien avec le pianiste Guillaume Bellhomme. Très bon après-midi à tous, à l'écoute de Radio Présence.